venons d'entendre André Breton, Antonin Artaud, Georges Bataille et François Mauriac. Toutes ces voix que vous nous invitez à écouter pour votre Nuit rêvée, Philippe Solers, voix d'écrivains qu'on retrouve d'ailleurs dans leurs textes et que vous nous incitez donc à lire et à relire, surtout quand l'actualité est aussi sinistre et répétitive. Finalement, on peut tenir fort bien avec une bonne bibliothèque, quelques bons disques et la radio aussi, bien sûr. Alors, merci d'avoir choisi pour nous toutes ces archives. On va continuer avec Malraux, Plénet, Dominique Rollin, Julia Kristeva. Mais vous voulez toujours écouter du Bach, étonnant, parce que vous aimez aussi, par exemple, passionnément Mozart.
Mozart ne conviendrait que pour certains. Par exemple, Mozart pour Bataille. Il est certain qu'il y a, il y a un long passage où Georges Bataille écoute Don Giovanni au moment où il était en Espagne avec son ami André Masson. Il est clair qu'il vibre à cette musique pour Mozart, pour Mauriac. Mais ça ne conviendrait pas forcément pour Artaud. Il faut des musiques, une musique qui traverse tout, tous les sentiments, tous les voilà. Bon, donc Bach. Encore une fois, c'est Dieu. Donc, vous pouvez le mettre n'importe où. Dieu est à son aise avec tout le monde. Bach traverse tout. C'est ce qu'il y a de... Franchement, et Gould a compris ça. Quel sacrifice Gould a fait de sa vie en se mettant à l'enregistrement complet de Bach. C'est extraordinaire. Il avait ça sous les doigts. Il vivait, il vibrait, il écoutait, il s'écoutait, il corrigeait. Mais il y a un dialogue de Gould avec Méloïne, violoniste. Méloïne lui dit, mais pourquoi vous ne faites plus de concerts? Mais on n'est pas là pour faire des concerts, pour faire des exhibitions avec un public. On est là pour être à la microseconde près sur la façon dont la note a été touchée ou pas. Vous comprenez? C'est ça qui est intéressant et qui touche de très près la façon d'écrire. Ou bien on est là, on place les adjectifs dans un certain ordre voulu, comme Saint-Simon, comme Proust, ou comme Céline, nous allons y venir. C'est-à-dire, ça vient musicalement, et les mots sont, d'une certaine façon, agencés, de façon très classique, hein, Ce qui se conçoit bien, là, s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Pourquoi pas? Ce qui veut dire que si vous avez un embarras pour écrire, ça veut dire que vous ne concevez pas ce que vous avez à écrire. Bon, Stendhal, écoutez, évidemment, Stendhal, ce serait Mozart. Bon, quand on s'enferme au 8 de la rue Comartin pendant 53 jours, et qu'on écrit, ou plutôt qu'on dicte la Chartreuse de Parme, c'est inouï. Il faut un imbécile comme Sarkozy pour dire que Fabrice Del Dongo est un petit con qui n'a rien vu à Waterloo et qui est passé à côté de sa tante. Stendhal l'aurait provoqué en duel. Enfin, c'est évident. Vous voyez, je fais de la politique malgré moi, ça me vient. Le président actuel de la République ne lit pas de livres, ou alors il ne lit que des publicités pour scooters.
C'est un vrai problème.
Rappelez-vous que l'ancien président qui veut revenir avait déjà bousculé la princesse de Clèves en trouvant que ça n'avait aucun intérêt, que c'était une chanteuse de troisième ordre. Enfin, donc il ne comprend pas grand-chose. Alors tous ces gens ne comprennent pas la littérature. Alors que un écrivain peut comprendre la politique mieux que la politique se comprend elle-même. C'est le cas de Mauriac, par exemple, qui fait des portraits absolument ravageurs de la bêtise de la politique de l'époque, voire même de la criminalité innocente, de la bestialité politique. Voilà. Donc c'est là où il faut redevenir sérieux. C'est la littérature qui dit la vérité.
Comment est-ce que vous avez découvert Céline ?
Les écrits de Céline, qui m'ont absolument capté à l'oreille, paraissaient à ce moment-là en extrait dans la Nouvelle Revue Française, et c'était d'un château l'autre. J'ai immédiatement été ahuri de la virtuosité de ce type. Vous vous rappelez le début d'un château l'autre, c'est la barque de Caron, etc. Enfin, on dirait, c'est beau comme du Homère, hein, c'est extraordinaire. Ce qu'on oublie toujours, on peut faire le procès de Céline tant qu'on veut, ça ne changera rien. Mais ce qu'on oublie toujours de dire, c'est qu'il aurait dû disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Il était enfin, absolument infréquentable, maudit, les pamphlets, patati, patati. Bon. Mais pendant 5 ans, enfin, Il écrit coup sur coup d'un château. Il est en ruine, hein, il est complètement à Meudon, c'est une sorte de clochard. Il écrit d'un château l'autre, Nord,
Féerie,
Rigaudan, Féerie pour une autre fois, et surtout le livre qu'il faut conseiller à tout le monde, parce que c'est du Molière ressuscité, à se tordre de rire, c'est les entretiens avec le professeur Y, technique d'écriture. Voilà. Alors, c'est un virtuose de la voix. Et là, il faut souligner aussi, on vous répète souvent que l'écrivain, c'est quelqu'un de sérieux, qui écrit vraiment la Vertige, la page blanche, Flaubert, voilà, comme si c'était un travail pénible. Pas du tout. Moi, je crois que les écrivains qui savent écrire ou qui ont ça naturellement parlent aussi bien qu'ils écrivent, écrivent comme ils parlent. Il n'y a aucune séparation possible entre la parole et l'écrit, comme on enseigne scolairement constamment, comme s'il fallait que tout soit borduré. Non. L'éloquence est quelque chose qui doit être naturel à un écrivain.
Au fond, il n'y a pas de séparation, de toute façon, dans tous les usages de la langue. La langue s'entend, s'écoute,
il y a pas de séparation.
Se parle, s'écrit, se lit.
Le seul art qui peut convoquer les cinq sens à la fois, c'est quand même plutôt la verbalisation fondamentale. Ça, c'est Lichtenberg. Vous savez que comment est-ce que vous pouvez jouir des cinq sens à la fois? Évidemment, une devinette, c'est faire l'amour par définition. Mais c'est par les mots, la poésie, etc. Que vous... Voilà, je ne sais pas. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. C'est un type qui s'appelle La Fontaine, que vous pouvez utiliser, oui, ou Baudelaire, c'est pareil. Vers paradis, les amours enfantines, les courses, les chansons, les baisers, les bouquets, et les violons vibrant derrière les collines, avec les brocs de vin le soir dans les bosquets. Voilà, vous regardez la façon dont les mots sont agencés. Les courses, les chansons, les baisers, les bouquets. Ah! Il faut trouver. Voilà. Ça s'entend, ça se goûte. Vous avez les convocations des cinq sens, puisque vous avez le son, vous avez des violons, vous avez du vin, vous avez... Voilà. C'est comme ça qu'il faut vivre, comme dans une sorte de paradis. Alors, bon, c'est pas ma faute si la plupart des gens préfèrent le purgatoire, l'ours ou l'enfer. Bien, oui, le paradis, c'est ennuyeux. Mais pas du tout, non, non.
On écoute Céline ?
Oui, je crois, parce que c'est le grand virtuose, oui. Oui.
Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaises électriques. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, oui, et personne ne m'empêchera de parler. Eh bien, voyez-vous, je vais aller vite, parce que je crois que ces choses-là coûtent très cher. Il faut donc être ménagé de ces mots. Je parle tout de suite de ce que je sais et de ce que j'ai lu. Dans les mémoires de Georges Sand, on ne lit pas beaucoup Georges Sand, mais on lit encore un petit peu ses mémoires, et moi en particulier, je les ai lus. Il y a un chapitre remarquable où, étant jeune fille, elle allait au devant de la vie, et elle avait des idées de gauche, d'extrême gauche même pour l'époque. Et elle était accueillie, elle avait accès par sa naissance et par sa notoriété. On sait que c'était une arrière-petite fille du prince de Saxe. Et elle avait accès dans les grands salons, et en particulier dans ceux où se rassemblaient encore les membres de l'ancienne aristocratie, mais la vraie, celle qui existait encore, qui était sortie de la cour de Louis XVI avec quel mal, et même de Louis XV. Et elle regardait ses membres de l'aristocratie, et elle allait dans ses salons, avec grande épouvante, en les voyant, la manière dont ils gesticulaient, dont ils s'agitaient, dont ils s'offraient des petits fours, dont ils s'avançaient des chaises, les retiraient, cachaient leurs perruques entre les seins des dames, et puis ensuite les mettaient sous leur derrière, et puis faisaient mille grâces, mille petites chichis. Elle en était épouvantée de voir ces vieux d'une époque disparue faire tant de grimaces. Eh bien, personnellement, je trouve que ce chapitre est essentiel. Je crois que Proust lui-même s'en est bien servi dans son histoire, dans ce fameux chapitre où il est question, où on voit les gens vieillir sur place. C'est un chapitre fameux, mais là, je crois que Georges Sand l'a précédé. C'est vraiment un très gros effort littéraire. Eh bien, J'ai la même impression quand je lis un livre. Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre, ben, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries, tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas ? À l'émotion, ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour te dire, ben, je regarde les romans de mes contemporains, ben, je dis que ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce qu'ils ne font pas, ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, eh ben, mon Dieu, c'est un temps où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, ben, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information.
Le mot important, c'est le nerf. Quand il dit « faut aller le nerf », c'est l'émotion transposée, la transposition immédiate, spontanée.
Nerf de la sensation, il dit.
Oui, c'est ça, le nerf de la sensation. Aller au nerf, exactement comme si on piquait à l'endroit qu'il faut. C'est la même chose pour la peinture. C'est-à-dire qu'un peintre dont on ne sent pas qu'il va au nerf, par exemple, prenez Manet, dont Picasso disait « chaque touche du pinceau de Manet révèle son intelligence ». C'est-à-dire que, voilà, c'est immédiat, c'est spontané. Mmh. Il ne faut jamais faire de pinsomme, comme disait Manet. Voilà. Donc, Céline, c'est pareil, ça lui vient comme ça. Il pourrait écrire, il l'a dit, il pourrait écrire comme ça, des pages, des pages, des pages. Et puis, il resserre, et il est tout à fait dans la voie. C'est-à-dire que ça... C'est drôle, et pour embêter Proust, il cite Georges Sand, parce qu'il sait que Proust est son grand concurrent dans l'histoire, donc il fait semblant, c'est rusé, il est tout à fait diabolique, il est très... Mais ces livres doivent être entendus. Autrement dit, il ne faut pas lire, il faut entendre. Hein, il faut entendre est un beau mot, vous avez les deux, hein, c'est entendre, je vous entends, oui, l'entendement, et puis l'écoute, je vous entends très bien, ou des gens qui s'entendent. Vous pouvez vous entendre avec des personnes humaines, eh bien ça peut arriver après tout, on s'entend. Ils s'entendaient très bien, pourquoi ? Ben oui, voilà, le mot choisi c'est s'entendre. Alors les livres c'est pareil, il faut les entendre. Mais d'ailleurs, dans la direction de Saint-Simon, il dit le français est langue royale, il n'y a que foutu baragouin tout autour. Ce qui est quand même exagéré, très à contre-courant. Hein. Mais vous savez, moi, ça m'intéresse, parce que la langue que j'emploie est le français. Oh, et Dieu sait que le Front National me paraît une abjection continuelle. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le français, c'est une certaine... Par exemple, vous prenez Saint-Simon, qui est vraiment, à mon avis, le génie suprême de la place des adjectifs et de la phrase courte, qui lui-même dit excusez-moi, vous trouverez peut-être de la négligence dans ce que j'ai écrit. Ça fait 8 volumes en Pléiade, hein, les mémoires de Saint-Simon. C'était vraiment extraordinaire. Bon. Alors, par exemple, il dit Madame de Montespan parlait de façon extrêmement. Elle parlait parfois extrêmement français. Alors, je veux dire, parler extrêmement français. Parler extrêmement français, ça ne veut pas dire qu'elle était extrémiste au sens d'une défense du français, pas du tout. Ça voulait dire tout simplement avec autorité. Donc, elle était drôle et tout le monde se craignait ses jugements incisifs. Voilà, on peut parler français et on peut parler extrêmement français. Évidemment, c'est perdu, puisque plus personne ne saurait parler extrêmement français. Ou alors, un peu de De Gaulle, c'est pas mal, parce que c'est ici, Londres, les Français parlent au français. Moi, j'avais 6 ans, ça me paraissait extraordinaire, les messages de Radio Londres, sur fond de brouillage. Hein, à la radio, ah, j'ai écouté la radio dans les greniers. Ici, Londres, les Français parlent ton français. Comme ça me parlait que les Français parlent ton français, parce qu'il y avait des Allemands dans le bas des maisons. Hein, c'est pas... Les Français parlent. Voici quelques messages personnels. J'aime les femmes en bleu. Je répète, j'aime les femmes en bleu. Voilà. nous nous roulerons sur le gazon. Je répète, nous nous roulerons sur le gazon. Ou alors, Rodrigue ne sait pas l'espagnol. Alors, vous voyez que ça, ce sont des contacts. Ça veut dire, soit il faut aller buter quelqu'un, soit, méfiez-vous d'une femme en bleu, ou alors, au contraire, elle sera en bleu, etc. C'était des messages personnels qu'il fallait, dont seul celui qui avait la clé. Ça a été mon éducation à la radio. Radio Londres. Les Français parlent aux Français. Je n'ai pas oublié, ça me paraît toujours aussi beau.
Donc, première archive, en effet, de cette deuxième partie de votre nuit rêvée, Philippe Sellers, André Malraux.
Oui, mais alors, Malraux, entre ici, Sellers, avec son cortège.
En 62, ouais. C'était très bien ce qu'il racontait sur ses antimémoires. C'est un homme intelligent.
Pour ce qui est de l'éloquence et de l'expérience, etc., Malraux, vous savez. Vous connaissez les photos de Malraux avec Mao Tse-tung en 1964 Oui, la France, du général de Gaulle, a reconnu la première à desserrer l'étreinte du blocage de la Chine, 1964.
Mais Malraux aimait beaucoup Mao Tse-tung.
Écoutez, il y a des photos où on voit qu'il parle. Vous savez ce que Mao Tse-tung a dit à Malraux, la première chose qu'il lui a dite, parlez-moi de Napoléon. Alors, je vous dis, pourquoi pas, je vous parlais de Napoléon. Alors, Napoléon, Mao Tse-tung s'intéressait à la guerre, à Clausewitz, à Sun Tzu, etc. Voilà. Et donc, Malraux, écoutez, 1964, c'est donc le 50e anniversaire, sauf erreur, de cette reconnaissance par la France seule de la République populaire de Chine, monstruosité totalitaire, bien entendu. Les Chinois, vous savez, ne s'en portent pas plus mal aujourd'hui. Ils achètent un peu du vin de Bordeaux, du cognac, etc. Et c'est eux qui vont payer la réparation de la Croix de Lorraine à Colombey, les deux églises. De toute façon, vous ne lirez pas un seul article dans la presse française, alors qu'il y en a plein dans la presse chinoise, sur cet événement considérable. Parce que qu'est-ce que voulaient de Gaulle et Malraux, d'une certaine façon, c'était embêter les Américains au maximum. C'est-à-dire, on reconnaît la Chine, on fait un discours à Phnom Penh, après on boit un coup et tout à coup on crie « Vive le Québec libre !» Ce qui était quand même assez n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'on l'avait maltraité, Roosevelt n'était pas bien avec lui, etc., etc. Voilà, tout ça, c'est de la politique. Alors, voilà, s'il y en a un qui a fait de la politique, c'est Malraux, bien sûr.
Mais il a aussi lu H de Sellers.
Il m'a sauvé la vie, Malraux.
Racontez.
C'est très simple. J'étais dans les hôpitaux militaires à l'époque. Je ne voulais pas faire la guerre d'Algérie. Donc j'étais décidé à me faire réformer quoi qu'il arrive, avec un rasoir dans mon pyjama. J'ai commencé une grève de la faim. Au bout de 15 jours, 3 semaines, c'est quand même un peu compliqué. J'ai réussi à doubler un psychiatre qui m'a demandé de lui faire un dessin en représentant un homme et une femme. Alors je les ai fait très... Oui, j'ai dessiné devant lui, il m'observait, et j'ai fait des sexes très apparents, pour l'homme et pour la femme. Des sexes très très apparents, mais et je ne leur ai pas mis de bras. Alors, j'ai vu son œil se dire, ouf, là, je tiens un cas. Il me dit, il manque rien. J'ai dit, non, il manque rien. Bon, alors, mais il a fallu que Malraux intervienne, pour que je sois réformé numéro 2 sans pension pour terrain schizoïde aigu, et je dois ma libération à Malraux. J'ai remercié Malraux, qui m'a renvoyé une carte en me disant, c'est moi, monsieur, qui vous remercie d'avoir pu, pour une fois, rendre l'univers moins bête. Ce qui n'est pas si mal. Et puis après, il m'a renvoyé un petit mot pour un livre qui s'appelle H, dont je n'ai pas besoin de vous dire que ça rime avec bis ou cannabis. Et donc merci de m'avoir envoyé ça, mais je suis très attentif au destin de ce livre. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait les substances.
Enfin, c'était
les
aussi...
substances, vous savez.
C'était un homme politique qui lisait.
C'était un homme politique extraordinairement informé de ce qu'on peut rêver, notamment en peinture. Il y a des livres de Malraux qui sont quand même épatants. Son Goya, par exemple. Très, très bien.
On va parler de Marcelin Plénet.
Oui.
C'est un écrivain, c'est un poète dont on parle d'ailleurs assez peu. Vous partagez avec lui Oui. Un bureau depuis toujours,
oui.
Au seuil de c'était le bureau de la revue telle quelle. Maintenant, chez Gallimard, c'est un très joli bureau, mais très petit d'ailleurs, qui est le bureau de la revue L'Infini. Alors j'ai l'impression que vous avez des relations d'une très grande pudeur, d'un très grand respect mutuel, et que vous travaillez très bien ensemble. On ne vous entend pas souvent parler de l'amitié, Philippe Soler.
Ah, c'est très important l'amitié, parce que ça ne se décide pas. Et si ça existe, ça doit en principe traverser toutes les épreuves.
Donc là, ça existe.
Ça existe alors réellement. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu une sorte d'objectif commun. Pour aller vite, Plaine-Des écrit un premier livre sur Lautréamont. Bon, Lautréamont était enfoui, etc. C'est lui qui a ressorti Lautréamont par lui-même, un livre très 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 fort qui vient d'être réédité, par exemple. Par ailleurs, il s'intéressait à la peinture. Il avait vécu aux États-Unis, etc. C'est lui qui a introduit un peu la peinture américaine à l'époque en France. Et puis, c'est quelqu'un qui a un caractère de concentration considérable et qui est un ami. Pourquoi ? Parce qu'il ne me manque pas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous manque. Au mauvais sens du terme. Hein, c'est là, il ne manque
oui,
pas.
Oui.
Donc il ne me manque jamais. Et s'il n'était pas là, il me manquerait. Mais enfin, c'est dans l'autre sens du mot de manquer. Hein. Quelqu'un qui ne vous manque pas, c'est très, très important. Et enfin, on peut parler de tout très, très, très librement, préparer des numéros ensemble. C'est passionnant de faire une revue trimestrielle sans publicité, en publiant uniquement des textes choisis, ce qui est une aberration complète sur le marché. Le numéro 126 de l'Infini, revue trimestrielle sans publicité, avec uniquement des textes, vient de paraître. Vous aurez bientôt un numéro 127. Vous aviez un numéro 125, où il était question de M. André Lenôtre, jardinier du roi. Pourquoi ? Etc. Voilà. Et il peut être aussi question de Dada, et de peinture. Par exemple, il y a deux livres de Plaine-Des très, très, très importants. Un sur Matisse, dont il est vraiment tout à fait connaisseur, et un autre sur Cézanne. Et puis, il y a ses poèmes, et il y a un livre très, très merveilleux qui s'appelle Le Savoir-Vivre, qui est trop méconnu. Et là, c'est un ami qui, en un sens, est censuré à cause de moi. Donc, il faut lui rendre cet hommage. C'est un très, très grand lecteur. Oh, il y a eu des gens tels quels. Vous avez Madame Jacqueline Risset, par exemple, qui publie un très beau livre ces jours-ci, qui s'appelle « Les instants, les éclairs », qui est aussi une amie. Parce qu'il n'y a pas que des amis hommes, il y a des amis femmes.
Bien sûr.
Figurez-vous qu'il y a des grandes amies, des grandes amitiés. Oui. Hein, c'est très important.
Alors, donc, Plaine-Des.
Christine Bohémé, par exemple, c'est une amie. Et donc, voilà. Donc, Risset, c'est quand même elle qui a fait la première traduction à peu près correcte, même superbe, de Dante. Ce qui n'est pas rien, parce que la Divine Comédie était un peu mal traduite.
Enfin, la Divine Comédie, voilà, vous l'avez toujours lu, hein, vous, par exemple. Hein.
Oui.
Donc, c'est vraiment
là, vous êtes avec l'Italie, et il est certain que l'amitié avec Plaine-Des s'est renforcée parce qu'il est allé très tôt à Venise,
oui.
Et où il va constamment, et moi, de même, avec une autre vie. Et finalement, c'est comme si on avait tout fait depuis Venise. Donc... Nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, etc. J'ai bien parlé l'espagnol, je l'ai perdu un peu à cause de l'italien.
Alors, Marcelin Plaine-Des, Jacqueline Risset, encore un autre nom d'ami, peut-être ?
Alors, ami, il y a eu... Je vais réécrire sur lui parce que ça va être son centenaire. C'était un des grands chagrins. J'ai eu plusieurs chagrins d'amitié, c'est-à-dire des gens qui sont morts, etc. Il y a un texte de moi qui s'appelle Requiem pour un ami qui est mort en Algérie. Voilà. Bon. Barthes.
Et oui.
Barthes a été un très grand ami. Hein, et donc la mort de Barthes a été un des grands chagrins de mon existence, une grande douleur. Il y a des chagrins d'amis comme il y a des chagrins d'amour.
Mais oui, on a des chagrins d'amitié.
Tout simplement, voilà. Et bien d'autres. Ponge a été un grand ami pendant des années. Il y a des amis avec qui on se brouille, d'ailleurs, puis il y a des amis avec qui on ne se brouille pas. Il y a des amis avec qui on se brouille parce qu'il y a un moment où ça ne va plus dans le même tout à fait dans le même sens, ou alors il y a des problèmes de changement de vie. Mais, par exemple, Barthes a été un ami tout le long de sa vie. Et Dieu sait que j'étais pas tranquille. Enfin, il était souvent exaspéré par moi. On le voit dans ses carnets, autour de Chine, etc. Je commence à l'agacer furieusement. Mais enfin, c'est pas grave.
Donc, une archive aussi qui s'appelle « Dans la bibliothèque de Dominique Rollin ». Elle fait visiter sa bibliothèque. Alors, Dominique Rollin, c'est la dédicataire de votre dictionnaire Amoureux de Venise.
Oui, et avant d'un livre de moi qui s'appelle « Drame ». Donc c'est
et « Drame », en effet.
Une très longue et très intense histoire d'amour qui a duré très longtemps jusqu'à sa mort. Très étrange relation de deux écrivains. Je vais aller à Bruxelles, la Fondation Baudouin et l'Académie royale de Belgique dont elle était membre.
Elle était membre, oui.
Elle
oui.
a été élue au fauteuil de Marguerite Yourcenar. Donc il y a 34 cahiers de journal et une correspondance, parce qu'on s'écrivait très souvent. C'est très très. Ça fait 3500 lettres. 3500 lettres qui sont en cours de décryptage. La première est de 1959. J'ai 22 ans et demi. Elle en a 43, 44. Elle en paraît 10 de moins. La relation entre un garçon de cet âge et d'une femme d'une extrême beauté, ça, j'ai même pas besoin, on peut consulter les photos, il y en a plein, extrême beauté et d'une extrême ténacité d'écriture, parce qu'elle était tout le temps en train de d'écrire, ça fait une relation très étrange. Je me demande même si ça ne pourrait pas produire encore un effet scandaleux, d'où un besoin de clandestinité très fort, parce que sans quoi ça aurait été désintégré. Donc, une femme de 43, 44 ans qui en paraît 10 de moins. Un garçon de 22 ans à peine, qui a déjà fait ses classes quand même, parce que je vois que les premières lettres sont, que j'ai, qui datent de 1959. C'est drôle, j'ai l'air de savoir écrire. C'est très... Voilà. Donc, ça a été un amour très, très, très intense. Venise, constamment, printemps, automne, etc.
Et vous partiez écrire aussi à Venise,
oui, bien sûr,
évidemment.
Bien
donc,
sûr, bien sûr,
comment,
bien sûr.
Comment ça se passait? Vous aviez des moments très longs de...
Pour arriver à ça, il faut qu'on arrive à deux choses. C'est-à-dire, écouter de la musique ensemble. Écouter de la musique ensemble, ça veut dire, là, vous savez tout. Si quelqu'un peut se taire au même niveau d'écoute que vous, ou pas. C'est comme marcher dans la rue. C'est une idée qu'avait Dominique. Marcher dans la rue, côte à côte, le bras ou pas, ça dit tout. Et oui, ça dit tout. Marcher, on s'entend pas. La musique, voilà. Et puis surtout le silence, parce que l'écriture, c'est le silence complet. Donc vous avez deux silences qui, de temps en temps, se donnent rendez-vous pour bavarder, mais très peu. Très, très peu. L'amour est silencieux, de ses yeux jamais là, contemple, fixe et contemple, comme Yael Derlin à la fin de mémoire. L'amour est silencieux, le désamour est bavard, la haine est vociférante, l'aigreur n'en finit pas de s'exprimer, mais l'amour est silencieux.
Alors, dernière archive de votre nuit rêvée, Philippe Solers, donc Julia Kristeva, qui a reçu Colette Fellouze dans sa maison de l'île de Ré. Il se trouve que c'est aussi votre maison. Voilà. C'est une théoricienne, c'est une psychanalyste, c'est une linguiste. Mais on oublie aussi qu'elle écrit des romans. Et que... Alors, c'était très beau, cette émission, parce que justement, à un moment donné, elle parle de ce qui l'entoure, de la couleur du ciel de l'île de Ré.
Enfin. Oui.
Et on oublie un peu, qu'on ne cesse de parler de la théoricienne, justement. Peut-être qu'il y a une partie d'elle qu'on ignore. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez ça?
Julia Kristeva, ça a été un coup de foudre. Donc, voilà.
Elle a toujours été très belle, faut dire. Hein.
Pas mal, oui. Et donc, nous sommes mariés depuis...
Depuis combien de temps?
47 ans. Donc, en principe, je ne me marie pas. Mais là, c'était évident, pour des tas d'autres raisons.
Elle a écrit un texte sous le nom de Julia Joyot.
Absolument.
Et elle dit, si je me suis mariée, c'est la faute à Yalta.
Voilà. Donc, Bon, disons les choses, parce que vraiment, il faut les dire. C'est quelqu'un de tout à fait génial. Bon, ça aussi, ça fait partie des rencontres, comme on dit. Bon, un peu, inévitable, une fois qu'elles se sont produites. On dit que c'est inévitable, mais enfin, c'est pas... Voilà. Donc, vous savez, c'est une star partout, sauf en France. Donc, star aux États-Unis dans l'université, ça brille, je sais pas, Holberg en Norvège, etc. Elle va partout. Là, je m'appelle, en général, je la squatte. Quand nous sommes dans les pays nordiques, je m'appelle Monsieur Kristeva, en quelque sorte. De temps en temps, dans mon studio à Paris, arrive une Américaine ou une Australienne qui me dit « Est-ce que vous êtes Monsieur Kristeva ?» Je dis « Oui, j'y arrive. Bon. » Donc, ce sont des civilisations très différentes. Donc, on peut aller aux États-Unis. J'ai vécu chez elle aux États-Unis. Mais en quelque sorte, je dois le dire, même si ça paraît trivial, en gigolo. Être gigolo de sa femme, c'est formidable.
Ah oui, c'est très bien.
Ah, je ne me refuse rien. Non, c'est quelqu'un d'absolument charmant, délicieux. Et en plus, j'aime beaucoup sa voix. J'espère qu'on va l'entendre.
On va l'entendre.
C'est quelqu'un qui est musicalement, qui parle un français absolument magnifique.
Avec un bel accent.
D'origine, un peu une pointe d'accent, une pointe à peine. Elle peut parler russe, elle peut parler anglais couramment. Voilà. Mais c'est la mélodie de la voix. Qui est, comme la voix de Dominic aussi, qui est très, 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 très ronde. Comme son écriture était ronde. Voilà. Ce sont des harmonies qui peuvent exister. Après tout, les hommes et les femmes ne sont pas forcés de s'égorger constamment.
L'île de Ré, c'est un pays qui vous enchante aussi, parce qu'elle en parle avec un bonheur magnifique.
Elle a tout...
Comme si elle faisait une expérience picturale permanente,
oui,
là-bas.
Oui, oui, elle est arrivée, elle a été éblouie par l'endroit. Ça vient d'un arrière-grand-père marin qui a trouvé exactement l'endroit de chez moi, qui a trouvé exactement l'endroit qu'il fallait pour prendre son bateau, aller pêcher ou pouvoir tirer au fusil de canard. Donc, c'est très étrange d'un lieu. Je suis d'une famille de marins, d'anciens. J'ai ces livres de marine. C'est très très étrange. De même que j'ai une arrière-grand-mère irlandaise. Attention. Alors c'est autre chose. Le Sud-Ouest est quelque chose d'assez. C'est une région étonnante, très 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 bizarre. Voilà, selon que vous êtes à Bordeaux, dans les vins, dans les vignobles, que vous suivez le cours de la Gironde jusqu'au bout, l'estuaire. Puis enfin, c'est quand même la ville, Montaigne, Montesquieu, la Boétie, Mauriac. Voilà, j'attends avec patience. J'aurai bien une petite place.
Place Philippe Sellers, très bien. Donc nous allons entendre André Malraux, puis Marcelin Plenet, Dominique Rollin, Julia Kristeva. Et puis nous nous retrouvons tout de suite après, Philippe Sellers.